culture, aux avant-postes de l'été. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour partir en livre, se faire une toile, une pièce, un concert, prendre la route des festivals. Jusqu'à la fin août, la Grande Table change donc d'horaire et de voix. Dès le 18 juillet, ce sera avec Sébastien Thème. D'ici là, je vous attends ce vendredi en direct et en public des Rencontres de la Photo à Arles. Puis à partir du lundi 11 juillet, en direct du Cloître Saint-Louis, pour un festival d'Avignon sous le signe du récit. Aujourd'hui, on ouvre la saison avec un opéra réputé inadaptable, La Divine Comédie de Dante. Pascal Dussapin, compositeur, Frédéric Boyer, librettiste, ont relevé le pari à la demande du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, où l'opéra Il Viaggio Dante est à voir, à écouter jusqu'au 17 juillet, retransmis en direct le 13 sur les ondes de nos camarades de France Musique.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Frédéric Boyer est écrivain, éditeur, directeur des éditions POL, traducteur aussi des Confessions de Saint-Augustin, de la Chanson de Roland ou encore des sonnets de Shakespeare. En 2018, apparu sa traduction des Géorgiques de Virgile sous le titre Le Souci de la Terre chez Gallimard. Bonjour à vous, Frédéric Boyer.
Bonjour.
Bonjour. Pascal Dussapin est lui compositeur de musique dite contemporaine, passé par l'Académie des Arts de Munich et la chaire de création artistique du Collège de France, ancien résident de la Villa Médicis comme du Festival de Salzbourg. Il a composé une œuvre unique, pérenne aussi, pour l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix. Pascal Dussapin, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Boyer est à mes côtés en studio ici à Paris. Pascal Dussapin, vous êtes vous chez nos confrères de France Bleu à Aix-en-Provence, puisque vous êtes à Aix en ce moment en train de mettre la dernière main à cette création mondiale qui sera donc présentée le 8 pour la première fois à Aix-en-Provence dans le cadre du Festival d'Art Lyrique. Vous êtes en train de régler les derniers détails, on imagine. Comment vous avez, ou plutôt quand vous avez commencé à travailler, à écrire cet opéra, Pascal Dussapin?
Je vous répondrai tout simplement qu'il a fallu toute ma vie pour en arriver là. Comme chaque partition que je prépare, je suis toujours un petit peu gêné quand on me demande ça, parce que il faut pas associer nécessairement le temps du travail que cela vous prend à la pièce elle-même. Mais en tout cas, ce qui est sûr avec la Divine Comédie, c'est une vieille histoire. Et comme souvent, mes opéras sont préparés très très longtemps en avance. Les thèmes parcourent quelquefois des années, voire même des dizaines d'années. La Divine Comédie, je commence à la lire, disons, à la fin des années 80, début des années 90. Je l'ai utilisée dans plusieurs de mes partitions, dont certains opéras comme Faustus de Lasnai au Staatsoper de Berlin, où j'utilise des citations dans le texte, puisque j'ai fait le texte moi-même, ou dans Passion, qui a été créé également au Festival d'Aix, qui était un opéra autour de la figure d'Orphée, mais où je vais chercher des citations, des textes de la Divine Comédie. L'opéra commence même par une citation de la Divine Comédie, et d'autres pièces, en particulier de musique de chambre. Et l'idée de faire un opéra avec la Divine Comédie m'est venue pendant la décision, je la prends quand j'écris Macbeth Underworld pour la Monnaie de Bruxelles. Donc on est dans les années 16-17.
Pas avant Jésus-Christ, 2016-2017.
Oui, 2016-2017.
et justement, et avec le camarade Frédéric Boyer.
Oui, alors que j'ai fait avec Frédéric Boyer, qui a fait le livret de cet opéra également, donc d'après Shakespeare. Et puis, un jour, j'arrive chez lui, on a un rendez-vous, puis je lui dis, on pourrait pas faire quelque chose avec la Divine Comédie. Donc il m'a d'abord expliqué que j'étais un peu fou, et puis il s'est mis au travail après.
Et voilà, et comment vous avez travaillé ensemble, Frédéric Boyer?
D'abord, je veux dire deux choses. Que c'est une grande chance pour un écrivain, pour un auteur, comme ça, de travailler avec un musicien comme Pascal Dussapin. Et même le projet lui-même, de pouvoir écrire comme ça au service d'une création musicale et d'une composition comme celle de Pascal, c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si ça se reproduira, mais en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose de très fort, de très
puissant. Jamais 203, vous savez ce qu'on dit.
Ça, on verra. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous avez compris que le librettiste est au service de l'obsession du musicien. Donc il y a cette obsession qui tournait autour de Dante, et je pense surtout de la musique de Dante. de la musique du vers dedans, de la musique de la langue de Dante. Et c'est vrai que quand Pascal m'a dit, ben moi j'aimerais bien voilà qu'on travaille autour de la Divine Comédie, j'ai pensé qu'il était un peu fou, parce que comment adapter, d'autant qu'évidemment il était hors de question de faire un opéra de 24 heures, ça aurait été sympathique, mais c'était pas possible. Donc il fallait trouver une idée, et on a mis un an, Pascal et moi, en fait on a travaillé ensemble, et je proposais des structures, des montages de textes, et un principe de traversée de l'ensemble des textes, et ça marchait pas en fait. Donc on a traversé pas mal d'échecs et de dépit, au point même de se dire bah tant pis. Et puis voilà, après il y a eu quelques idées qui ont fait démarrer quelque chose, et ensuite voilà, moi je me suis mis à travailler vraiment, et toujours en lien avec Pascal, on discute ensemble. Moi c'est à la fois très libre, parce que Pascal a un grand souci du texte en fait, en tout cas il est très, je le sens comme ça, il est très présent, il lit, très respectueux, et en même temps il pousse son librettiste à apprendre à faire preuve d'audace, ce qui est bien. Et on a trouvé, donc il a fallu inventer un dispositif. Finalement, à partir du moment où on avait inventé un dispositif, on a pu faire cette folie d'imaginer une traversée comme ça, des textes de Dante, mais surtout du traversée de la matière que représente l'œuvre de Dante. Voilà.
Alors c'est une idée de vous l'évoquiez, Pascal Dussapin, et Frédéric Boyer vous a suivi en joué. Mais c'est aussi une commande du Festival d'Aix et de l'Opéra de Paris. Il faut des institutions derrière vous aujourd'hui pour créer, imaginer un tel opéra. Il faut dire qu'on fête les 700 ans de la Divine Comédie, monument de la littérature européenne, œuvre source, œuvre somme. On vous sait audacieux l'un et l'autre, curieux, érudit. On imagine notamment que rien ne peut inquiéter un Frédéric Boyer, celui qui a dirigé le projet de retraduction d'intégralité de la Bible pour Bayard, un chantier de 6 ans, une équipe de 50 personnes. Mais là quand même, vous avez ressenti l'un et l'autre un peu d'appréhension à l'idée d'adapter en opéra ce monument de la littérature européenne, Frédéric Boyer ?
Non, ben justement, on a décidé de pas adapter le monument. Donc c'est ce que je disais, c'est qu'il fallait trouver un principe poétique au sens structurel du terme, c'est-à-dire il fallait trouver un principe poétique pour traverser l'œuvre, et surtout ne pas chercher à adapter l'œuvre à l'opéra. Donc à tel point que par exemple quelque chose de qui a d'ailleurs après posé pas mal de questions pendant la création, mais on a décidé de scinder en deux le personnage de Dante. Il y a le jeune Dante de la Vita Nova, le Giovane Dante, et le Dante de la Commedia, le Dante qui descend aux enfers et qui traverse le purgatoire jusqu'à l'inaccessible béatitude paradisiaque. Voilà, et il y a ces deux, donc ça crée deux personnages de Dante comme ça qui se répondent dans l'opéra. Et ce qui est magnifique, c'est que pour l'opéra, donc on va créer des chœurs, donc avec le chœur on peut faire passer plein de choses, on peut faire passer tout un narratif parallèle à l'histoire. Et donc l'idée, ça a été de en quelque sorte de décomposer l'œuvre et de trouver une narration personnelle qui soit autant que possible celle du musicien et un petit peu la mienne, voilà, et de permettre à Pascal de composer quelque chose. Donc c'est, il y a 7 tableaux qui sont en fait une évocation poétique de cette traversée qui va depuis la jeunesse et la perte de l'amour de jeunesse de Béatrice et jusqu'à cette folie qui est ce voyage à la fois imaginaire et très matériel, en même temps polyphonique, cette traversée des enfers de purgatoire jusqu'à la vision indicible et jusqu'à la béatitude.
Voilà, un opéra en 7 tableaux. On peut dire que vous avez rusé l'un et l'autre, pris le parti aussi du temps court pour cette œuvre fleuve, 1h45. On parle maintenant non plus d'un opéra, mais d'un opératorio. Pascal Dussapin, quels écueils vouliez-vous, vous, absolument éviter ? Quelles étaient vos craintes principales ?
Ben, j'en avais beaucoup, mais comme toujours, parce qu'elles sont toujours fondatrices d'énergie, disons, très positive. Mais en tout cas, la première, c'était de précisément pas rentrer dans une adaptation, comme vient de le dire Frédéric, de la Divine Comédie. La Divine Comédie, il y a, je sais pas, 400 ou 500 personnages qui parlent d'ailleurs à chaque fois très peu. Il y a une grande, grande activité, surtout dans le premier livre, l'Enfer. Et il fallait absolument pas essayer de considérer la Divine Comédie comme un potentiel libretto, enfin un livret. Il fallait avoir un point de vue. Et c'est là où ça a été merveilleux de travailler avec Frédéric, parce que au fil de nos discussions, on s'est confronté à certains écueils qu'il a su dépasser en inventant une sorte de non pas nouvelle Divine Comédie, mais en tout cas de nouvelle histoire dans l'histoire, tout en restant dans l'histoire, si je puis dire.
Vous dites être venu à la musique par la littérature, hein, Pascal Dussapin, ce qui fait peut-être de vous un compositeur un peu littéraire. Dante, lui, était très mélomane, comme le raconte dans cet extrait. La traductrice Danielle Robert, elle a fait paraître récemment une nouvelle traduction de la Divine Comédie de Dante. C'était chez Actes Sud. On l'écoute.
Qu'il était extrêmement mélomane et très fort en musique, il s'y intéressait énormément. Et c'est l'époque, lorsqu'il écrit la Commedia, où la polyphonie est en train de se développer énormément et d'atteindre son apogée. Et la polyphonie est née de ce qu'on appelle l'organum, c'est-à-dire un système de notation musicale qui permettait de faire, de donner à une première voix la possibilité de s'exprimer, et après cette voix, d'autres, une autre, puis une troisième, puis une quatrième, venaient s'ajouter, et ça donne un chant choral polyphonique. Donc, Dante, effectivement, s'est beaucoup inspiré de ça, et dans le purgatoire, on voit constamment des groupes d'âmes, d'ombres, qui chantent.
Voilà, Dante doit beaucoup à la musique, nous dit Danielle Robert. Vous l'entendez quand vous lisez Dante, Frédéric Boyer, vous l'avez entendu aussi quand vous avez lu cette Divine Comédie, Pascal Dussapin. Pascal Dussapin ?
Oui, bien sûr, c'était d'ailleurs le grand sujet du traitement de ce texte. Il s'agissait pas du tout d'entrer en musique avec Dante comme j'ai pu le faire auparavant avec d'autres textes, voire de très grands textes comme Shakespeare ou Kleist, mais précisément d'aller chercher au cœur même de ce langage et des préoccupations, on pourrait dire philologiques, une certaine sonorité, une inspiration en fait. C'est-à-dire c'est que la langue de Dante est si complexe et si simple, si évidente, si mélodique, et Danielle Robert a parfaitement raison quand elle évoque précisément ce tournant avec la polyphonie, qui est aussi un dégagement de la musique religieuse. Enfin, tout d'un coup, la musique, en quelque sorte, peut devenir profane aussi, ça c'est très important, et qu'il a fallu considérer le texte de façon, je dirais, très spécifique. Et à cet égard, je dois dire que j'ai eu la chance et la surprise de découvrir dans une de mes interprètes, Christelle Lutsch, qu'elle était diplômée de l'université de Iéna en italien sur Boccace, Dante et Pétrarque, et elle est devenue ainsi ma collaboratrice pour le texte, pour l'analyse de texte, la coupe des vers, les accents toniques très particuliers, et ça a été un travail très très précis qu'elle a effectué, et aussi de relecture de la partition, puisqu'elle interprète le rôle de Giovanni Dante. Elle a pu reprendre ainsi toutes les parties et me corriger, car moi je voulais absolument que l'écriture rythmique soit la plus proche possible de l'élocution de la langue toscane, puisque comme on sait en plus, c'est Dante qui crée la langue italienne. Enfin, il écrit en italien alors que tout le monde écrivait en latin à ce moment-là.
D'ailleurs,
il y a une revendication. Pardon.
Oui, pardon. D'ailleurs, ça, vous avez choisi de le conserver. Hein. Vous avez condensé cette Divine Comédie pour en faire un opératorio, on le disait, d'1h45. Mais vous n'avez pas touché à la langue.
Oh, il dure presque 2 heures, en fait.
Si vous voulez, l'opéra se donne en italien et vous n'avez pas choisi de traduire la langue de Dante.
Cela aurait été absolument ridicule, de traduire en français. Fin. En tout cas, c'était un autre projet, quoi.
Frédéric Boyer.
Non, bien sûr, la langue est pour moi une source d'inspiration.
Dans sa musicalité, il fallait la faire résonner, vous le dites aussi.
Absolument.
Faire entendre ce texte. Frédéric Boyer.
Bon, tout à fait. Bon, on a travaillé sur les textes donc italiens, effectivement, de que ce soit ceux de la Vita Nova, parce qu'il y a des textes de la Vita Nova aussi dans le livret, dans l'œuvre, et des textes donc de la Commedia. Et ce que je veux dire, c'est que peut-être que l'histoire de tout ça, même le l'histoire même de la comédie, c'est d'atteindre ce qu'il appelle dans le premier livre du Paradis la nouveauté du son, hein. C'est-à-dire que c'est aussi ce mouvement, c'est un mouvement vers une interrogation sur la musique, sur le son neuf, quand il atteint le paradis, tout est concentré sur cette question-là d'une langue neuve, d'un son neuf, d'une musique neuve qu'il faut faire entendre. Et c'est pour ça que c'est un pari merveilleux que de proposer à quelqu'un comme Pascal il se l'est proposé à lui-même d'ailleurs, donc c'est bien de travailler sur cette question-là et de la Divine Comédie. Ça en fait un pari contemporain pour une création musicale que je trouve exceptionnelle. Voilà.
Alors ce voyage, Il Viaggio Dante, sera pour la première fois à découvrir à Aix-en-Provence, je le disais, à partir du 8 juillet, à voir, à écouter jusqu'au 17 juillet cet opéra, qu'on ne peut donc pas vous faire écouter pour l'instant, même en avant-première. En revanche, on a retrouvé, Pascal Dussapin, un extrait de cette comédia que vous aviez imaginée au début des années 90, avec l'ensemble Ars Nova. Vous nous direz si c'est un bon avant-goût de ce qu'on va entendre cette semaine pour la première fois dans le cadre du Festival d'Aix-en-Provence. Extrait de Comédia, inspiré de trois extraits du Paradis de Dante. Vous racontiez en ouverture de cette discussion, Pascal Dussapin, comment ce voyage de Dante vous a travaillé depuis longtemps. On vient d'entendre donc un extrait dirigé, l'ensemble Ars Nova par le chef Philippe de Naon avec à la voix la mezzo-soprano Françoise Kluber, paru en 97 sur le label Harmonia Mundi. Est-ce que ça continuait à vous inspirer dans cette direction-là ? Est-ce qu'on vient d'entendre un avant-goût de ce qui se jouera avec ?
Alors, cette pièce, en fait, date de 1992, ce qui fait maintenant 30 ans. Donc ça prouve que je dois avoir de la suite dans les idées, puisque la Divine Comédie, j'ai traversé ce texte à plusieurs reprises. Mais vous dire que l'opéra Il Viaggio Dante ressemble à cette petite pièce-là, non, certainement pas. Évidemment, les choses ont beaucoup changé pour moi, pour des questions très techniques, de musique, d'inspiration, de style et de traitement aussi de la langue.
Alors justement, à propos de la langue, Frédéric Boyer, italien, vous parlez italien ?
Je parle italien... pas aussi bien que vous sûrement, mais je le lis, voilà. Non, ça a été compliqué, hein, puisque de construire un livret dans une langue étrangère, et dans quelle langue, et dans quelle œuvre. Donc heureusement, ensuite, comme l'a dit Pascal, quelqu'un est venu aider, notamment à toutes les questions de métrique, d'accentuation, pour que la composition soit au plus près de ce rythme-là.
C'est ça que je voulais en venir, pardon, Frédéric Boyer, parce que c'est vrai que rien ne vous arrête et on essaie toujours de comprendre comment vous fonctionnez. Des textes anciens aux langues mortes, aux langues étrangères, on a l'impression qu'avec vous, les langues ne sont jamais une barrière. Hein. On se souvient en 2015, quand vous avez publié le Kamasutra dans une nouvelle traduction originale du sanskrit, c'était une autre folie, en fait.
Oui. Non, mais de toute façon, c'est passionnant de rentrer comme ça dans la langue de l'autre et dans l'autre œuvre et d'essayer d'entendre quelque chose. Et en plus, là, on travaille, quand on fait un livret, on travaille une langue étrangère pour, d'une certaine façon, une autre langue étrangère qu'est la musique. Parce que autant je peux lire l'italien et le comprendre, autant je serais incapable de composer musicalement quelque chose. Et voilà, donc moi ça m'excite beaucoup de travailler comme ça. Voilà.
Vous disiez d'ailleurs que le Kamasutra c'était une grammaire du désir et la Divine Comédie de Dante, c'est une grammaire de quoi ?
En tout cas, je l'ai interprété moi comme ça parce que on peut, mais c'est en tout cas le tel qu'on a construit le livret en sept tableaux, ça raconte un passage qui va de la perte à l'ineffable de la joie, voilà. Donc tout ce grand texte qu'est la Commedia, c'est à la fois un texte sur le deuil, sur la perte, sur l'impossible de l'amour, qu'il faut tenir malgré tout, et la représentation d'une traversée possible et qui traverse quelque chose. Puisqu'on parlait de polyphonie, qui traverse quelque chose de très carnavalesque, hein, puisque on a les voix des damnés, on a tous les personnages qui sont des personnages historiques et des personnages aussi de tout l'imaginaire collectif de cet Occident qui sort du Moyen Âge en quelque sorte, et tout ça est intégré comme ça dans une vision comme l'a dit Pascal, qui fait passer aussi du sacré au profane et qui en même temps propose une vision béatifique de ce qui s'appelle la joie, qui est, je pense que l'image la plus belle de la fin du paradis, c'est ce rire impossible de Béatrice, que Béatrice dit à Dante, maintenant tu vas pouvoir enfin entendre mon rire, hein, qui est un rire qui fait à la fois peur et qui ravit, donc c'est un peu tout ça, la Divine Comédie.
En fait, enfer, purgatoire, paradis, c'est un voyage dans l'au-delà qui raconte en creux la vie, hein, Pascal Dussapin, vous ne dites pas autre chose quand vous affirmez que l'opéra, c'est dire en chantant ce qui nous préoccupe ensemble. Qu'est-ce qui nous préoccupe plus que la vie et la mort, hein, ce passage-là ?
Ah rien d'autre. Hein.
À l'amour, peut-être.
Quelquefois. Oui, bien sûr, l'amour, mais... Vous savez, on m'a demandé récemment pourquoi écrivez-vous, ce qui est une question quand même, je trouve, assez ridicule, si vous pouvez me permettre ça. J'ai répondu parce que j'attends de mourir. Pendant ce temps-là, je m'occupe.
C'était définitif.
Mais au-delà du bon jeu de mots, si vous voulez, il y a quelque chose qui nous ramène écrire de la musique. Vous savez, c'est... Vous voyez, j'ai du mal à en parler. C'est indicible. Moi, je n'ai aucune autre idée de l'existence que celle d'écrire de la musique. Donc, je sais d'ailleurs pas pourquoi les gens font autre chose que ça. Donc, vous voyez où j'en suis. Donc, il est évident que ce travail me ramène en permanence à des questions existentielles et que mes opéras et le choix des textes vers lesquels je tends en permanence sont toujours des textes très, qui traitent des questions que vous venez d'énoncer et qui sont en fait des métaphores. En fait, ce qui m'intéresse à l'opéra, c'est que c'est un art de la métaphore. Je m'intéresse pas à raconter des histoires, disons réelles. Je pense que le cinéma fait ça beaucoup beaucoup mieux que nous. Et l'opéra est là pour traiter quelque chose qui a à voir avec peut-être la conscience ou un appel de vigilance par la métaphore. Et la Divine Comédie me permet. De façon très modeste, car il faut pas oublier que tout traitement de texte est déjà une trahison du texte, hein, vous n'ajoutez rien de plus en mettant en musique un texte. Au contraire, quelque part, on lui enlève des choses. Parce que l'espace même de l'énonciation du texte est très réduit dans la voix humaine. Il suffit de faire monter une soprano un peu haut et puis vous n'entendez plus rien. Vous avez écouté Mozart, c'est très clair. Et je sais que les puristes sont pas d'accord, mais le texte quelque part dans la musique, il devient pas un sous-texte naturellement, mais il est pas son espace naturel d'élocution. Ou alors il faut qu'il soit dit, il faut qu'il soit parlé. Et c'est là où il est à son maximum. Donc, comme je disais, on le trahit un peu, mais en même temps, la musique lui apporte peut-être aussi une dimension, une autre dimension, un parallélisme très particulier qui a à voir avec peut-être tout simplement une métaphysique, enfin différente. En plus, là. Quand on fait un opéra comme ça, on n'a pas que des voix, on n'a pas que du texte, on a un orchestre, on a des chœurs. Enfin, il faut que tout devienne vocal et il faut que tout puisse être dit quelquefois sans texte, uniquement par les notes, voyez. Et c'est un espace, encore une fois, de métaphore généralisée et qui est une, oui, encore une fois, une trahison et puis en même temps une exaltation de ce texte-là. Il est sûr que la Divine Comédie, quand vous êtes confronté à un texte comme ça, vous êtes confronté à des plus hauts monuments de l'histoire de la pensée humaine. Hein.
Vous avez évoqué, donc ça, ouais, vous avez évoqué l'orchestre.
Ça rend discret assez vite, vous savez.
L'occasion de dire que c'est l'orchestre de l'Opéra de Lyon qui vous accompagnera sur cette création, sur cette production, avec une à la direction musicale Kent Nagado. La mise en scène et la chorégraphie est signée Klaus Gutt. Vous êtes, Pascal Dussapin, vous, le compositeur de cet opéra, Il Viaggio Dante, notre invité en compagnie de Frédéric Boyer, écrivain, éditeur, librettiste pour l'occasion. On en parle à l'occasion de cette création qui vient, non pas ouvrir, mais en tout cas ponctuer, être un des temps forts de cette nouvelle édition du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence. France Culture, il est 13h12.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
C'était lui aussi un homme de défi. Peter Brook, les épées, hein, ces grands mythes, ces grandes légendes à adapter. Et Shakespeare, vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure, c'était peut-être le dramaturge britannique qui a le plus accompagné le metteur en scène Peter Brook, décédé samedi à 97 ans. Français de cœur, à la tête de son théâtre pendant longtemps, le théâtre parisien des Bouffes du Nord, il avait donné Peter Brook à voir en 85 sa version du Mahabharata, épopée mythologique hindoue au Festival d'Avignon. Une dizaine d'années de travail, une pièce somme pour celui qui a révolutionné la syntaxe théâtrale. Avec une idée toute simple, je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène, écrivait-il en ouverture de ses écrits sur le théâtre, l'espace vide. Quelqu'un traverse cet espace vide pendant que quelqu'un d'autre l'observe et c'est suffisant pour que l'acte théâtral soit amorcé. C'est peut-être Frédéric Boyer dans la définition la plus juste et la plus simple du théâtre, hein, du spectacle. Qui remet chacun à sa place, le spectateur, le comédien, l'espace.
Oui, moi j'avais vu le Mahabharata, effectivement, à sa création. Pour moi, ça a été un choc de spectateur, mais aussi de. C'était un choc vraiment bouleversant. J'en suis à peine revenu et effectivement, il avait une immense intelligence dramaturgique, justement, des textes. Et ce qui faisait qu'il pouvait prendre des espèces d'épopées énormes et. Il faut le dire, c'est quelqu'un, parce que parfois c'est pas toujours le cas chez les dramaturges contemporains, mais il avait un immense respect des textes, même s'il est remonté, même s'il est travaillé, c'était exceptionnel, et il projetait, effectivement, il avait ce génie de projeter le texte, la voix du texte, en fait, dans un lieu et dans le rapport à l'espace. Je pense que ça a été un des plus grands poète du rapport à l'espace, du rapport au lieu, ça, en faisant intervenir des corps et des voix, voilà, c'était bouleversant, et tout son travail sur Shakespeare aussi était très impressionnant.
Le théâtre, c'est la vie en moins compliqué, disait-il, en plus simple, par la présence du vide.
Alors pourquoi le vide? Je crois que c'est parce que la vie, telle que nous le vivons, a, je crois, un caractéristique qui est la même pour tous les hommes partout. Elle est trop compliquée. Pour comprendre, même pour mieux vivre, pour mieux sentir, quel que soit l'aspect, si c'est le programme d'une journée, si c'est la question des relations, si c'est les difficultés, nous vivons d'une manière trop compliquée. Et d'une certaine manière, ce qui compte pour chacun, individuellement, en tant que groupe, en tant d'être humain, c'est quelque chose qui risquerait facilement d'être noyé par un excès de détails. Alors là, on peut prendre ça de plusieurs manières. On peut dire qu'il y a un excès d'anecdotes, un excès de superflu. Il y a cet excès. Alors, si le théâtre est là pour représenter la vie d'une manière ou d'une autre, il est clair que la grande différence entre la vie en dehors du théâtre et la vie à l'intérieur du théâtre est qu'à l'intérieur du théâtre, cette même vie soit vécue d'une manière moins compliquée. Moins compliqué veut dire plus simple veut dire plus clair. Donc comment arriver à la simplicité et la clarté? On commence par balayer.
J'aime bien cette idée, et j'imagine vous aussi, Pascal Dussapin. On commence par balayer. Le théâtre est là pour représenter la vie d'une manière ou d'une autre. Mais d'abord, il faut épurer un peu. Hein.
Oui, alors c'est très très beau ce qu'il vient de dire, là, très impressionnant. Je viens d'apprendre ça, peut-être, mais je le comprends intérieurement depuis probablement si longtemps. Il avait quelque chose de d'abord, ce qui est une caractéristique avec Peter Brook, c'est que moi j'ai vu beaucoup de spectacles. J'ai même vu en 74, j'étais tout jeune, Le Timon d'Athènes avec François Martourel, et je me souviens avec une acuité incroyable des scènes. Et c'est même dans le flux, voire le déluge de spectacles que j'ai vu, assez quand même presque perturbant. Je crois que beaucoup de gens qui aiment Peter Brook pourraient dire la même chose, de constater cette imprégnation par ce retrait qu'il avait en même temps, enfin, très très particulier dans son expression théâtrale, qui lui permettait de parvenir comme ça à cet équilibre entre la représentation et le monde, quoi. C'est pour ça que moi j'aime à dire que Peter Brook, en fait, pratiquait un art modeste, et c'est à méditer aujourd'hui, où l'époque porte de plus en plus à la surenchère visuelle, et où elle tend à confondre souvent l'œuvre et l'événement culturel, quoi. Et c'est pour ça que Peter Brook nous donne à penser de façon toujours nouvelle, et j'espère, et j'en suis sûr, que cette pensée continuera à vivifier comme ça, comme la possibilité de penser mieux et plus loin par cette conscience qu'il nous portait à avoir, cette vigilance, celle dont je parlais tout à l'heure, enfin, qui dégage comme ça cette liberté intérieure. Moi, je me souviens du spectacle qu'il a monté récemment avec Beckett. On sait que Beckett, c'est très compliqué de le monter parce que il est très surveillé dans les didascalies. On peut pas faire ce qu'on veut. Les metteurs en scène, finalement, aiment pas trop le monter parce que ils pensent qu'ils ont jamais le droit de rien faire sur scène. Mais j'étais sidéré de la beauté, la pertinence, comment le texte nous advenait, enfin, et tout en proposant des images d'une simplicité, d'un extraordinaire. Enfin, j'ai peu de mots pour exprimer ça. Enfin.
Il y en a un autre qui est très difficile à monter, et qui l'était selon Peter Brook aussi, c'est Shakespeare. Peut-être justement parce que Shakespeare a cette force d'avoir et de porter une langue que tout le monde peut comprendre, disait Brook. On l'écoute.
On ne se rend pas compte que Shakespeare n'est pas, on l'appelle un poète, très joli, on l'appelle un grand auteur, mais il ne fait jamais dans aucune de ses pièces ce qu'on appelle de la littérature. Il n'y a pas de mots d'auteur. Tous les plus grands mots de Shakespeare sont dans un langage que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas une seule tirade connue de Shakespeare où les phrases sont, comme dans la littérature, des mots d'auteur. C'est la manière la plus concentrée et plus juste pour dire le contenu. Et ça commence bien sûr avec les deux mots qui ont traversé le monde entier, qui est « to be » ou « not to be ». Il n'y a pas un enfant de 10 ans qui aurait la moindre difficulté à comprendre to be or not to be, c'est tout.
Frédéric Boyer, vous qui avez traduit ces sonnets sur la langue de Shakespeare.
Non, mais je comprends ce qu'il veut dire, je suis assez d'accord, mais la langue de Shakespeare, elle est aussi beaucoup plus... Moi, j'aurais pas dit ça, voilà. Il y a une grande simplicité, c'est vrai. Il y a un langage très, très direct, très vif chez lui, là, qui est, même qui vous saute au visage, enfin, là, c'est, mais en même temps, lisez le début du Songe du Midi d'été, c'est très métaphorique, c'est à la fois très rusé, il y a plein de jeux de mots. Alors, Peter Brook a raison, les jeux de mots, on en fait tous, et ça peut être très, très compréhensible, mais c'est quand même une langue, c'est une langue monde, la langue de Shakespeare. Alors, en ce sens, effectivement, c'est la langue pour tous, mais en même temps, c'est un monde qu'il faut s'approprier aussi. Hein.
Shakespeare et Peter Brook étaient devenus inséparables, indissociables. Brook avait monté dès 55 pour la Royal Shakespeare Company, Titus Andronicus, puis en 62, le Roi Lear. C'est le critique Georges Bagnu qui écrit dans la préface du livre avec Shakespeare de Peter Brook. Si l'on paraphrasait le goût brookien pour les métaphores du vivant, il va de soi que ce fut son engrais privilégié. Brook s'est nourri de Shakespeare comme de la vie. Et puis, je voulais aussi vous citer un autre passage de ce texte, de ses écrits sur le théâtre de Peter Brook, L'espace vide, parce qu'il distinguait le théâtre mortel du théâtre sacré, brut ou encore vivant, Peter Brook. Il disait que le théâtre mortel, ennuyeux, sclérosé, se ferait un chemin jusqu'au cœur des grands opéras, de la tragédie, d'une comédie de Molière ou d'une œuvre de Brecht. Mais nulle part, cependant, le théâtre mortel ne s'insinue plus volontiers, ne s'installe plus confortablement, ne se sent plus dans son élément que dans les représentations de Shakespeare. Nous voyons ces pièces jouées par des bons acteurs et d'une manière qui semble être juste. Elles ont l'air vivant et coloré, il y a de la musique et chacun porte un beau costume, comme cela se fait dans les spectacles classiques de bon ton. Pourtant, au fond de nous-mêmes, nous trouvons cela atrocement ennuyeux. Et en notre fort intérieur, nous en faisons retomber la faute sur Shakespeare, à moins que ce ne soit sur le théâtre en général ou, à la limite, sur nous-mêmes. Voilà ce qu'écrivait Peter Brook à propos de Shakespeare et du théâtre mortel. Frédéric Boyer, donc je le disais, vous avez traduit ses sonnets. Pascal du Sapin a été plus téméraire encore, puisque vous avez fait vos armes avec Roméo et Juliette. C'était votre premier opéra avec Olivier Cadio, créé en 89 au Festival d'Avignon. Vous avez, on l'évoquait tout à l'heure, adapté Macbeth pour la Monnaie de Bruxelles. C'est là que votre complicité à tous les deux est née. C'était votre 8e opéra, Pascal du Sapin, sur le livret original de Frédéric Boyer. S'attaquer à Shakespeare, c'est la chose la plus redoutable.
En fait, non. Juste avant, j'avais fait une Penthésilée d'après Heinrich von Kleist. Ça, c'était vraiment redoutable. Mais Shakespeare, peut-être je vais choquer mon cher Frédéric, mais c'était assez amusant, en fait. On s'est beaucoup amusé, et puis en fait, on n'était pas nécessairement dans le respect qu'on a eu sur Dante, ou que j'ai eu précédemment sur Kleist. Shakespeare, c'est une œuvre monde, c'est une œuvre multiforme. Personne nous attendait pour qu'on raconte l'histoire de Macbeth, tout le monde la connaît, donc on a pu jouer véritablement avec, jusqu'à transformer certains personnages, non pas en leur contraire, mais en tout cas les, entre guillemets, pervertir, créer d'autres rôles, que soit un enfant qui tue Macbeth à la fin. Enfin, on a pu créer un Macbeth, je crois, très différent, Underworld, c'est-à-dire un autre monde à Macbeth, puisqu'en fait, l'opéra commence, ils sont déjà tous morts. Et ce qui rapproche du reste un peu cet opéra de certains aspects du Viaggio, parce que, comme vous savez, quand Dante descend dans les enfers, il ne rencontre que des gens qui sont morts. Et d'ailleurs, Virgile est mort depuis très longtemps aussi. Enfin, ça, c'est... Ça ne fait pas non plus une règle générale d'appropriation des textes, mais avec Shakespeare... On était, je crois, Frédéric pourrait le dire aussi, dans peut-être une liberté très grande que seul un auteur comme ça peut nous offrir.
J'aimerais qu'on termine avec les mots du philosophe Giorgio Agamben à propos de Dante, à propos de cette divine comédie. Un voyage, mais d'abord justement une comédie. On écoute Giorgio Agamben.
La culture italienne naît sous les signes de la comédie. On n'a jamais réfléchi assez pourquoi Dante a appelé son poème Comédie. Là, il a fait un geste qui a marqué toute la culture italienne. C'est un geste profondément anti-tragique. C'est un geste qui affirme l'impossibilité de la tragédie dans l'époque moderne. Et bon, après, on a ajouté l'adjectif divine, là, justement, parce que on ne savait pas que faire, de quoi faire de cette comédie. Ça ne semblait pas assez noble qu'une tradition commence sous le signe comique. Dante, c'est un auteur comique dans ce sens, tout à fait.
Voilà, on a parlé de la perte de ce voyage aussi dans l'au-delà que mène Dante. Peut-être terminer avec vous, Frédéric Boyer, sur cette idée exprimée par Giorgio Agamben, que quand même, à l'origine, Dante est un auteur comique.
Oui, enfin, faut encore s'entendre sur le sens comédie, effectivement. C'est comique, d'ailleurs, c'est comique. L'enfer, par exemple, souvent, les gens vous parlent de ce grand livre, Quel enfer, comme quelque chose de terrifiant. C'est vrai, mais c'est aussi écrit comme effectivement, c'est écrit sur une vertu comique, une vertu, puisque il convoque tout un chacun, il convoque des personnages imaginaires, il convoque des personnages historiques, des personnages politiques, il les ridiculise, il inverse des versets latins d'hymnes chrétiennes anciennes. Il y a tout un art parodique, même dans l'usage de la langue d'ailleurs, chez Dante, qui rend effectivement ce texte drôle, efficace, étrange. Mais le mot comédie, c'est aussi la comédie du monde. Enfin, c'est aussi le fait qu'on est tous en train de jouer des rôles, et que la grande histoire de cette comédia, c'est de passer d'un rôle du perdant, de quelqu'un de perdu, à un rôle mystérieux qui est ce rôle où la langue est entière, où la musique résonne pleinement et où le rire devient à la fois fou et effroyable et divin. Voilà.
En un mot, je voulais vous demander, Frédéric Boyer, Wajdi Mouawad, quand il était passé autour de cette grande table, nous disait que quand une œuvre est grande, elle vous révèle. Elle révèle quelque chose de vous que vous ignoriez. Il parlait à ce moment-là de l'œuvre de Sophocle, mais il disait aussi qu'Oedipe, Antigone, l'Iliade et l'Odyssée lui avaient fait voir la part de chagrin qu'il portait en lui. Qu'est-ce que cette comédie de Dante a révélé en vous ?
Oh bon. En tout cas, je reprendrai ces mots, c'est-à-dire on peut lire, et d'ailleurs c'est ce que j'ai proposé aussi un peu, on peut très bien lire cette pièce comme une traversée du chagrin, comme une traversée du deuil, mais à un niveau tellement ample, tellement à la fois drôle et fou, que ça vous fait du bien finalement d'avoir traversé ce chagrin-là comme ça.
Merci à tous les deux. Merci Pascal Dussapin et merci Frédéric Boyer. Il Viaggio Dante est à voir à partir du 8 jusqu'au 17 juillet à Aix-en-Provence dans le cadre du Festival international d'art lyrique. Merci beaucoup à tous les deux et à toute l'équipe de la Grande Table d'été. Thomas Beau à la réalisation avec Marie-Claire Oumabadi, Oriane Delacroix à la programmation pour cette Grande Table d'été, Henri Leblanc et Mathilde Thon-Fourcade à la préparation. Jeanne Dassas et Théa Corollaire nous ont rejoints pour cette Grande Table et vont nous accompagner tout l'été. Merci à elle.